La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France bouge. Comme chaque jour, nous vous proposons une bouffée d'optimisme. Ensemble, nous partons à la découverte de celles et ceux qui font bouger la France. Ensemble avec Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Carole Ferry, bonjour à toutes et à tous. Comme chaque premier mercredi du mois, émission spéciale soutien aux jeunes. Nous tentons de dénicher toutes les bonnes idées pour vous venir en aide dans cette période difficile. Et tiens, nous parlerons notamment des jobs saisonniers avec le patron du parc Astérix, Nicolas Crémer, qui est notre invité jusqu'à 14h.
Nous vous ferons également découvrir le Fonds de solidarité étudiant, l'initiative de Jules Simion pour répondre concrètement aux besoins des étudiants, logement, matériel informatique, nourriture, et ça marche aussi si vous souhaitez faire un don. On prendra également des nouvelles d'un cabas pour un étudiant qui se développe sur toute la France.
Il ne faut pas pour autant oublier l'avenir. Tiens, quelle formation choisir? Quel métier? Quelles études? Depuis 1969, le Centre d'information et de documentation jeunesse aide les jeunes à trouver leur voie. Et ce sera notre saga du jour.
Et pourquoi pas créer sa boîte? Les trophées Europe 1 La France bouge. Chaque jour, un projet défendu par sa créatrice ou son créateur. Aujourd'hui, Vanguard, des œuvres de street art brodées sur tableau. C'est à découvrir vers 13h45.
Et puis bien sûr, demain, un emploi. Ne pas rater si vous recherchez un job avec 200 postes à pourvoir sur 3 ans. Ou ça, bah vous connaissez la règle, il faut être là à 13h50 pour le savoir.
Bienvenue dans La France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, bien sûr qu'elle bouge encore cette France. Alors oui, c'est dur pour un paquet de jeunes en ce moment, pour les étudiants qui cherchent des jobs, notamment pour cet été. Et bien comme chaque premier mercredi du mois, nous allons tenter de vous soutenir, de vous faire découvrir les initiatives qui peuvent faire du bien. Et on en parle avec notre témoin du jour.
Nicolas Crémer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le directeur général du parc Astérix. Forcément, comme tous les parcs d'attractions en ce moment en France, vous êtes fermé, mais vous espérez pouvoir ouvrir, quoi, avant l'été. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, vous préparez depuis longtemps le recrutement de vos équipes.
Oui, en fait, on n'est pas ouvert, mais on a fait comme si on allait ouvrir, pour être prêt, bien évidemment, à ouvrir le plus rapidement possible. Donc, on a commencé notre recrutement comme tous les ans, fin décembre. Tous les ans, on recrute environ 1000 personnes pour ouvrir le parc au printemps. Et on a quasiment terminé ce recrutement. Alors bien sûr, malheureusement, on n'a pas de perspective. On dit aux gens, oui, c'est bon, vous allez faire la saison avec nous. Malheureusement, on ne peut pas vous dire encore
aujourd'hui.
Parce
que c'est ça, quand vous les avez recrutés, là, logiquement, ils devraient être en train de travailler.
C'est
vous seriez
début avril,
en train de préparer les vacances de Pâques.
Bien sûr.
Et donc vous leur dites quoi? Vous leur dites,
on leur dit, si ça
se confirme, on vous embauche. Pour le moment, il n'y a pas de chômage partiel et tout ça.
Non, bien sûr que non.
Vous les prenez quand ça démarrera.
Tout à fait, on leur a dit, c'est bon. Vous êtes prêts à faire la saison avec nous, c'est super. Et on vous appellera quand on démarrera. Voilà. Malheureusement, certains ont trouvé déjà du travail. Et ce qui fait que, on est obligé de continuer le recrutement pour boucher les trous.
C'est
qui
un
se créent
éternel
au fur et à
recommencement.
Exactement,
vous passez votre temps à essayer de recruter des gens qui peut-être partent le lendemain. Et en attendant. Alors, quels sont les postes que vous proposez qui sont encore à pourvoir?
Alors, on a des postes à pourvoir dans un peu tous les métiers du parc. Bien sûr, des métiers d'accueil avant toute chose, dans les attractions, à l'entrée du parc. On a des postes à pourvoir dans la restauration, qui est une partie importante de notre activité, aussi bien sur le parc que dans nos hôtels. On a des postes à pourvoir dans les hôtels, à la réception par exemple. Puis on a des postes aussi à pourvoir dans les ventes, dans les centres d'appel, dans tous les postes support derrière pour nous aider à passer la saison.
On le dit, chaque premier mercredi du mois dans La France bouge, on soutient les jeunes pour les aider dans cette période difficile. Là notamment, il y a pas mal de jobs chez vous là-dessus. Si vous cherchez ce genre de profil.
Il y a énormément de jobs, il y en a pour tous les goûts. Et ce qui est... En fait, nous, on va chercher des gens qu'on va recruter essentiellement sur leur savoir-être. Peu importe leurs compétences techniques, ça nous est un peu égal sur beaucoup de postes. Il nous faut des gens qui soient avenants, qui soient souriants, qui ont envie d'aller vers les gens, qui sont à l'écoute de nos visiteurs. C'est là-dessus qu'on va les recruter. Et c'est là-dessus qu'on va leur apprendre un métier qui est assez simple finalement et leur proposer une première expérience.
Quand vous dites que vous avez recruté comme d'habitude, mais d'habitude vous avez 100% du parc ouvert, vous avez 100% de clients qui peuvent venir. L'année dernière, quand vous avez réussi à ouvrir en juillet et en août, vous n'étiez qu'à 50% des possibilités. Mais malgré tout, il faut toujours autant de monde. C'est comme si c'était un été normal.
Pratiquement en fait. Puisque l'an dernier, on s'était fixé une jauge à 15 000 visiteurs, alors qu'on peut accueillir jusqu'à 30 000 visiteurs jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre le nombre de personnes pour accueillir 30 000 visiteurs et en accueillir 15 000, il n'est pas si différent que ça, en fait. Il vous faut quasiment tout le temps autant de monde dans les attractions, tout le temps autant de monde à l'entrée du parc. C'est peut-être en restauration que cela joue le plus.
Il vous faut toujours un Obélix, alors
bien
souvent
sûr.
Un Astérix. On dit souvent que ce sont des métiers difficiles, qu'on reste très longtemps sous la chaleur, qu'on a très chaud.
Alors,
voilà.
Fait...
Vous êtes amélioré ou c'est vraiment difficile ?
C'est un métier qui est vraiment difficile parce que de porter ce costume d'Astérix ou surtout d'Obélix, c'est quand même assez compliqué. En fait, ça ne dure pas très longtemps. Les gens restent 20 minutes dans le costume et après ils font une pause pour pouvoir respirer, se remettre un petit peu et ils repartent.
Ils restent comme ça toutes les 20 minutes et ils reviennent tous les combien ?
Eh bien, ils reviennent toutes les 20 minutes, puisqu'en fait on a toujours Astérix et Obélix qui sont
font
sur le parc pour accueillir.
Font 20 minutes de pause. Non mais ce que je veux dire c'est que celui qui a le costume, il reste 20 minutes, après il fait une pause de 20 minutes et il revient ?
Exactement.
D'accord. Et est-ce qu'ils sont mieux payés, ceux qui restent comme ça des heures sous leur costume ? C'est quoi les salaires ? C'est le SMIC à peu près ?
C'est le SMIC, ça dépend des métiers. C'est un peu plus que le SMIC dans pas mal de métiers.
Lesquels, par exemple ?
Notamment la restauration, par exemple, la technique. Et puis, effectivement, on a beaucoup d'intermittents du spectacle. Astérix et Obélix sont des intermittents du spectacle. Et c'est des métiers qui sont en général mieux payés que le SMIC, oui.
Est-ce que vous avez beaucoup de turnover ou d'une année sur l'autre, ça devient une habitude, on fait sa saison au parc Astérix comme on la ferait dans une station de ski? Mettez-vous bien devant votre micro.
Alors c'est un métier effectivement où on a beaucoup de turnover, puisqu'en fait on accueille beaucoup d'étudiants, de jeunes en fait, qui sont en quête d'une première expérience, d'un job d'été. On a en grosso modo 50% de turnover chaque année. Cette année, en fait, c'est une année un peu particulière, puisque compte tenu de la situation, on a beaucoup plus de gens qui veulent revenir sur le parc. Grosso modo, cette année, on a 80% des gens de l'an dernier qui veulent revenir sur le parc.
Et parmi ça, est-ce que vous avez beaucoup d'étudiants qui n'ont pas pu travailler cette année, parce qu'une bonne partie des jobs étudiants ont été supprimés, annulés, se sont retrouvés dans des conditions compliquées ?
Je dirais qu'un peu plus d'une grosse moitié des gens qui travaillent chez nous l'été sont des étudiants, oui, bien sûr.
Et cette année, encore un peu plus ?
Et cette année, je ne sais pas encore, je ne pourrais pas vous dire, mais vraisemblablement.
Pour ceux qui habitent loin, vous proposez des solutions d'hébergement à proximité du parc ?
Alors, on n'a pas d'hébergement à proposer aux gens qui viennent travailler sur le parc. En revanche, on a des aides, comme beaucoup d'entreprises, en fait, pour les aider à trouver des logements et à se loger.
C'est quoi comme aide ? Quel type d'aide ?
Ce sont on a tout un catalogue en fait, de logements qu'on peut leur proposer, d'une part.
Et puis, cher ?
Pas trop cher, bien sûr. Et puis on a également des aides financières.
On a parlé des personnages, les horaires, 20 minutes de pause et puis 20 minutes en costume. Les autres, c'est quoi les horaires à peu près ? C'est des horaires traditionnels ?
Non, c'est très variable en fait. Il faut s'adapter à la vie du parc. Le parc, il est ouvert le matin à 10h, mais des fois, il ouvre plus tôt pour les hôtels. Et il ferme le soir en fonction de la fréquentation. Il peut fermer à 18h ou il peut fermer à minuit. Donc les horaires sont très souples.
Je crois que vous adaptez en fonction de la météo, en fonction de tout ça, quasiment au jour le jour, vous décidez de prolonger ou pas l'ouverture.
Exactement. On peut décider à midi de prolonger d'une heure ou deux heures l'ouverture du parc.
Nicolas Crémer, vous êtes donc le directeur général du parc Astérix. Vous êtes avec nous jusqu'à 14h. Vous êtes notre témoin du jour.
Europe 1.
Et vous êtes au bon endroit. Là, c'est le manège Europe 1, 13h17.
Émission spéciale soutien aux étudiants. Aujourd'hui, restez avec nous. Nous avons des idées pour vous aider.
Oui, des initiatives pour trouver ce dont vous avez besoin. De l'informatique, un panier repas, pourquoi pas. Tiens, un logement, on en parlait. Ça marche aussi si vous avez envie d'aider. Tout ça, c'est tout de suite dans La France Bouge. Émission spéciale étudiants aujourd'hui sur Europe 1 avec Nicolas Crémer, qui est le directeur général du parc Astérix. On parle depuis le début de cette émission des jobs saisonniers, parce que c'est en ce moment que la plupart de ces grands acteurs sont en train de recruter. On l'a entendu là depuis le début de cette émission. 1000 postes en tout à pourvoir du côté du parc Astérix. Une grande partie est pourvue, mais il en reste 150 à 200 si jamais vous avez des envies d'aller du côté de tout Attix pour cet été d'Astérix.
Avec nous également Jules Simion, bonjour.
Bonjour.
Alors les fidèles de l'émission vous connaissent, hein, puisque vous étiez déjà venu lors de la première émission spéciale jeunes parler d'un site de soutien scolaire que vous avez créé lors du premier confinement. Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau aujourd'hui. Vous venez nous présenter votre nouveau projet, cette fois pour aider matériellement les étudiants. Vous venez de lancer un fonds de solidarité étudiant. Comment ça fonctionne ? Comment vous est venue cette idée ?
Alors mon premier projet tient toujours, hein, puisqu'on sort une troisième version d'ici une semaine. Mais en effet, on a décidé avec un autre étudiant entrepreneur, un de mes amis que j'ai rencontré d'ailleurs grâce à mes activités professionnelles, de monter un fonds fin février. C'est là que l'idée a émergé. Parce que si vous voulez, On s'est rendu compte, grâce à nos deux plateformes, lui a une plateforme de relais colis entre particuliers qui rémunère justement ceux qui captent les colis pour les donner à leurs propriétaires. Et donc, en ce moment, il y a beaucoup de télétravailleurs et d'étudiants qui prennent cette solution pour se faire des revenus. Donc, il s'est rendu compte, lui, de son côté, et moi, de mon côté, avec ma plateforme, on a beaucoup d'échanges et d'interactions, notamment entre étudiants, qu'il y avait une grande situation de précarité pour ces gens-là et qu'il fallait leur venir en aide de manière très concrète.
Alors, justement, de façon très concrète, comment ça marche si là, je suis un étudiant, que je suis en difficulté, que j'ai besoin d'être aidé pour acheter, allez, on va dire, un ordinateur, par exemple hein.
On vient sur le site, on remplit tout un formulaire qui va nous demander en quoi on est légitime de capter une aide plus qu'un autre. Et ensuite, on demande de quelle aide on a vraiment besoin. Si c'est une aide numérique, voilà, parce que tous les cours sont en télétravail. Est-ce qu'on a besoin d'un ordinateur parce qu'on n'en a pas, parce que c'est le seul moyen de suivre les cours aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin d'une aide alimentaire parce qu'à la fin du mois, on n'a pas assez de ressources financières et donc on peut pas, ou alors qu'on se limite dans nos repas? Ou même, est-ce qu'on a besoin d'un petit plus pour payer notre loyer à la fin du mois si on a perdu un contrat ou quoi par le passé?
Alors pour ça, pour l'aide financière, vous faites une collecte. Vous avez reçu combien pour le moment?
Voilà. Nous, on fait un appel aux dons, en fait, aux entreprises profitables, bien sûr.
Et aux particuliers?
Aux particuliers, bien sûr aussi. Pour récolter le plus de dons possible, pour soit les reverser sous forme de capitaux financiers directs, soit sous forme de matériel, comme le matériel informatique ou des paniers alimentaires.
Mais vous en êtes à combien, là, du coup, avec
toutes ces entreprises? Là, on a récolté 13 800 euros. En deux semaines, grâce à des sociétés comme Inetum, donc anciennement GFI, un cabinet de design qui s'appelle Minial Design Strategy, une société.
Donc là, si des patrons d'entreprise sont en train de nous écouter, vous allez nous redonner l'adresse de votre site hein, pour qu'on se trompe. Mais ils vont sur votre site, ils vous disent bonjour, on a X milliers d'euros à vous offrir pour financer des projets concrets et vous prenez tout.
Exact. Généralement, ça c'est par mail, mais exactement. En fait, si une entreprise a envie de nous faire un don, soit elle le fait via notre lien HelloAsso sur notre site, soit elle nous envoie un mail et à la fin, on organise ce qu'ils veulent faire.
Ce sont pas seulement des dons financiers. On vous donne parfois aussi du matériel. Qu'est-ce qu'on vous a donné pour l'instant?
Exactement, c'est assez drôle. On est venu nous voir, d'ailleurs L'Oréal est venu nous voir, si on peut dire les noms, pour nous donner des produits d'hygiène. Et donc, comme on sait que ça sert aussi à l'intérêt des étudiants en ce moment, puis que c'est des produits qui sont chers en temps normal, on les a acceptés et on va organiser une distribution dans le mois à venir.
Alors, ce qui est fou avec votre profil, hein, vous avez, comme le disait Carole, rencontré lors de la première émission, c'était en janvier, à l'époque, vous aviez 18 ans, alors peut-être fêter votre anniversaire des 19 depuis, mais vous êtes tout jeune et c'est impressionnant la maturité que vous avez. Comment vous gérez tout ça? Parce que vous êtes par ailleurs étudiant en commerce à Madrid. Merci par ailleurs d'être venu là encore à Paris pour nous aujourd'hui. Mais comment on gère tout ça quand on a 18 ans?
On se rend compte qu'il y a des vrais manques dans la société qui ne peuvent pas être comblés que par des institutions publiques et que c'est aussi aux jeunes qui sont dans des situations mauvaises. Moi, je suis dans une bonne situation de prendre les choses en main.
Mais quoi. Du coup, vous avez rallié une équipe autour de vous parce que peut-être qu'après cette émission, vous aurez quelques milliers d'euros en plus à gérer.
Donc déjà, sur le fond, il faut savoir que tout le monde est bénévole.
On l'espère.
Tout le monde est bénévole. Donc moi, j'ai cofondé ça avec mon ami Rémi. On est bénévole. Pareil pour les membres du comité. Et on a une équipe maintenant de 12 personnes. Pour structurer, et parce que si vous voulez, on a décidé de fonctionner en comité, donc comité logement, alimentaire, numérique et aide globale, pour que le traitement des demandes se fasse assez rapidement. Donc bien sûr, on a une équipe et on est assez soudés, donc ça va assez vite, mais c'est vrai que c'est
un
rythme.
Donc on va sur HelloAsso, si on veut pouvoir...
Non, on reste sur le site fs2.fr,
d'accord.
Mais
donnons
on aura
bien
un lien vers ce site-là.
De quoi vous avez besoin aujourd'hui, à part de l'argent?
Écoutez, c'est un peu comme ce que fait Europe 1 en ce moment avec nous, c'est de nous donner la parole pour prouver que voilà, il y a des solutions qui sont apportées aux étudiants et qu'il faut leur faire confiance. Et puis que si on a une entreprise et qu'on est profitable, je ne vais pas aller demander bien sûr à une entreprise comme le Parc Astérix qui en ce moment a plus d'euros de revenus, mais si on a une entreprise profitable, de venir et de nous faire un don ou de nous proposer des produits. Ou
est-ce qu'il y a des produits dont vous auriez besoin ou est-ce qu'il y a beaucoup de logements? C'est quoi la demande que vous avez le plus?
La demande qu'on a le plus, c'est numérique. C'est vraiment une grande partie une demande numérique, des gens qui n'ont plus d'ordinateur ou des gens qui font des licences où on a besoin de gros logiciels, des logiciels aussi qui sont chers et qui ne sont pas financés par les universités. Donc on a besoin de matériel numérique et on a aussi besoin de dons financiers directs.
Alors, nous sommes en ligne également avec Anne Vuattier. Vous avez cofondé Incaba pour un étudiant. Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
On en avait parlé il y a quelques semaines également avec votre associé. On a voulu prendre de vos nouvelles aujourd'hui. Vous avez donc créé cette plateforme pour mettre en relation les étudiants en difficulté et des familles qui voudraient les aider pour des paniers repas.
Oui, absolument. Nous avons créé cette initiative et ce mouvement solidaire autour des étudiants à Lyon il y a 2 mois. Et devant la demande et la mobilisation des parrains, nous avons étendu ce mouvement à l'ensemble du territoire français, partout où se trouvent des étudiants. Et nous lançons donc un appel aujourd'hui pour que tous les parrains qui souhaitent soutenir les étudiants et qui habitent à proximité d'universités ou d'écoles puissent venir s'inscrire sur le site www.1caba pour un étudiant avec le chiffre 1.
Oui, c'est pour ça qu'on a voulu vous passer un coup de fil aujourd'hui, parce que déjà vous nous aviez beaucoup émus quand vous étiez passé dans l'émission il y a de cela quelques semaines, et vous nous avez alerté sur le fait que vous manquez de familles parrains pour pouvoir justement aider les jeunes sur toute la France. Vous ciblez bien évidemment principalement les grandes villes étudiantes pour le moment.
Oui, l'idée, c'est d'aller au plus proche des étudiants, parce que notre objectif, c'est de créer du lien de proximité. Au-delà du CABA, qui est un symbole, il n'y a pas que de l'alimentaire, des produits anti-Covid. Il y a aussi beaucoup de liens sociaux de proximité. Nous associons les étudiants et les parrains les plus proches les uns des autres, afin qu'ils puissent se retrouver assez facilement et subvenir aux besoins des étudiants, qui peuvent être divers, mais surtout gérer leurs problématiques psychologiques.
Parce que ça qui est intéressant, c'est que l'idée est partie d'un panier repas pour aider, mais c'est de créer du lien, avec des familles qui, derrière, peuvent aider à trouver un job, à partager un moment aussi pour rompre la solitude. C'était ça l'idée aussi d'un CABA pour un étudiant.
Oui. Oui, on a des parents qui invitent leurs filles à déjeuner, on a des parents qui leur offrent des billets de train pour aller voir leur famille qu'ils n'ont pas vu depuis plusieurs semaines. Et on a effectivement des parrains qui ont mis leur réseau professionnel à disposition de leurs filles pour leur trouver des petits jobs étudiants ou des stages pour terminer leurs études.
Quelques villes, très rapidement, dans lesquelles vous auriez vraiment besoin de parrains, là?
Alors, Paris intramuros, Clermont-Ferrand. On a aussi un petit peu besoin à Annecy. Mais bon, aujourd'hui, les inscriptions des filles affluent. Donc je lance cet
appel au parrainage.
Qui nous écoutent très et qui bien. Sont très généreux.
Merci Anne Vuattier. Si vous êtes un étudiant en difficulté ou si vous souhaitez, vous l'avez bien compris, aider cette plateforme, c'est 1caba pour un étudiant.
Et merci à vous également Jules Simion. Là aussi, pour aider ou se faire aider, là c'est le site FSDE, donc F comme Fabrice, S comme Sophie, D comme Dominique, E comme Emmanuel.fr. FSDE.fr, Fonds de solidarité pour les étudiants.
Et nous sommes toujours avec notre témoin du jour, Nicolas Crémer, directeur général du Parc Astérix. Vous restez avec nous, on parle notamment job saisonnier aujourd'hui.
Europe 1, et il est 13h29.
Et nous parlons avenir tout de suite. Comment choisir sa voie, son métier, ses options, que c'est compliqué.
Ah oui, ça notamment quand on est parent, mais aussi quand on est étudiant. Alors pour vous aider, il y a le Centre d'information et de documentation jeunesse, ça s'appelle le CIDJ, et ce sera notre saga du jour. Et oui, bien sûr qu'elle bouge encore cette France et qu'elle trouve des solutions. On en parle aujourd'hui notamment avec Nicolas Crémer, qui est le directeur général du Parc Astérix. Alors, pas de date de réouverture pour le moment.
Si, pas encore.
Pas encore. Mais à titre personnel, c'est quoi vos espoirs? C'est le 15 juin comme l'année dernière?
Non, j'espère qu'on pourra ouvrir avant. Alors, mon espoir le plus fou, c'est d'ouvrir sur la première quinzaine de mai, quelque part. Je sais que ça va être super compliqué.
Un peu optimiste, non?
Oui, voilà, voilà. On peut rêver, il faut rêver.
Vous avez raison.
Sinon, non, si on pouvait ouvrir le 15 mai, ça serait une très bonne nouvelle. Ça serait une super nouvelle. Le 15 juin, pour moi, c'est vraiment la
date. Mais de façon concrète, quand on est patron du Parc Astérix, on n'a pas eu un coup de fil pour le moment de la préfecture ou du secrétaire d'État au tourisme ou de je ne sais trop qui.
Alors, de Bercy.
Nous, on est en contact avec les autorités préfectorales, bien sûr, pour discuter de ces choses-là. On appartient également à un syndicat des parcs de loisirs qui est en discussion avec le secrétaire d'État au tourisme et au... Monsieur le maire. Et puis on appartient à un groupe qui est la Compagnie des Alpes, qui elle-même aussi a des contacts.
Et de façon concrète, personne ne vous a donné une sorte de début de calendrier?
Absolument pas. Absolument.
Même pas un début. Alors en attendant, ce parc, il est fermé alors qu'il aurait dû ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? C'est triste à mourir. Vous nous disiez que vous y étiez hier. Il ne se passe rien ou quand même il faut faire tourner les manèges parce qu'il faut qu'ils s'entretiennent?
Si, il se passe toujours quelque chose au Parc Astérix. Hier, il neigeait à gros flocons sur le parc.
C'est vrai qu'à Paris, il a neigé en région parisienne.
Après, oui, bien sûr, le parc continue à vivre. On a entièrement préparé les attractions pour une ouverture. Notre objectif, c'est que dès qu'on aura la date d'ouverture, c'est d'ouvrir le plus rapidement possible.
Ça prend combien de temps?
Il faut globalement pour rassembler toutes les équipes et se mettre en ordre de marche et puis aussi faire venir les clients parce qu'il faut quand même leur dire attention, on est ouvert, il faut qu'ils le sachent. Ça prend 2 semaines en fait.
Ah voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il vous faut 2 semaines entre la date où qu'on vous communiquera et votre possibilité de rouvrir. Vous nous disiez tout à l'heure que l'année dernière, vous étiez à moitié de touristes par rapport à une année normale, 15 000 jours
de
visiteurs contre 30 000 d'habitude. Est-ce qu'on est rentable, malgré tout, quand on n'a que 15 000 clients par jour, visiteurs par jour ?
Oui, bien sûr. Alors d'abord, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, en fait. On a monté très progressivement.
Devant votre micro.
On a monté tout très progressivement, en fait. La première semaine, on a fait globalement 25% de ce qu'on savait faire, de ces 15 000. On en a fait après 50% la semaine d'après. Et c'est seulement après qu'on est arrivé dans ces jauges-là. Le temps que les clients comprennent, nos visiteurs comprennent qu'on était ouvert et qu'on pouvait les accueillir dans de bonnes conditions.
Mais ça reste rentable.
Bien sûr, ça reste rentable. En fait, on a des coûts fixes, je dirais, qu'on soit ouvert ou fermé, qui sont extrêmement élevés. Et après, je dirais, le coût d'ouverture, il n'est pas si élevé que ça. Bien sûr, c'est les coûts du personnel. Mais c'est pour ça qu'on a des saisonniers qui viennent quand le parc est ouvert et qui ne viennent pas quand le parc est fermé.
Et tous ces gens-là, il faut que vous les formiez juste avant la réouverture. Ça prend combien de temps ? Il faut leur expliquer leur job ?
Ça va absolument. Ça fait partie de ces 15 jours, en fait. Je disais tout à l'heure, on recrute les gens avant tout sur leur savoir-être. On cherche des aptitudes, en fait, des gens qui sont conviviaux, etc., qui sont souriants. On va leur apprendre les techniques du métier. Elles sont très simples. Pour ça, il nous faut globalement une semaine.
Alors, on entend tous autour de nous des gens dire « pourvu que les restaurants, que les terrasses rouvrent, on a envie d'y aller ». Et c'est sûrement pareil pour les parcs d'attractions. Est-ce que malgré tout, c'est votre gros espoir de vous dire que du jour où on sait que vous rouvrez, vous faites quasiment le plein?
Oui, alors c'est plus qu'un espoir, c'est une conviction. On est persuadé, parce qu'on voit bien comment les gens réagissent quand on propose des opérations de vente pour l'été, par exemple, ou quand on a vu ce qui s'est passé l'été dernier, ou même au moment d'Halloween. On a senti qu'il y avait une énorme envie, une énorme appétence de nos visiteurs pour venir nous voir. Donc on est très confiant par rapport à ça. Ouais.
Pour le moment, il n'y a pas de réservation ouverte, hein, puisque vous ne savez pas, même pour cet été, par exemple?
Non, si, bien sûr qu'on a des réservations ouvertes. On a fermé toutes nos réservations globalement jusqu'au 10 mai. Et en revanche, après, les réservations sont possibles. En espérant que, bien sûr, on puisse ouvrir. Pourquoi ? Parce qu'un parc ne se remplit pas, je dirais, instantanément. Il faut forcément avoir ce qu'on appelle un talon, des gens qui viennent, et c'est en particulier vrai pour nos hôtels. Et la très bonne surprise l'an dernier, c'est qu'on a ouvert un nouvel hôtel, un troisième hôtel. On a augmenté notre capacité de 150 chambres, en passant de 300 à 450 chambres. Et on a eu nos hôtels qui étaient quasiment complets. On a eu plus de 90% de taux d'occupation de nos hôtels au mois d'août et au mois d'octobre, juste avant la fermeture.
Ce qui fait venir les visiteurs dans les parcs d'attractions, ce sont les nouvelles attractions. Vous, du côté du parc Astérix, mais c'est vrai pour tous les grands parcs d'attractions français, vous vous êtes énormément réinventé ces dernières années. Là, quand on fait une année quasi blanche, on serre toutes les vis, et puis on utilise ce qu'on a, et puis on attendra de voir pour la prochaine attraction.
Oui, alors effectivement, honnêtement, on a décalé en fait notre plan d'investissement. C'est une façon effectivement de limiter la casse en termes de sur le plan financier. Il est hors de question, bien sûr, de ne pas revenir le plus rapidement possible dans notre programme d'investissement.
Ce sera quand la prochaine attraction alors au parc Astérix?
Ça sera pas cette année parce qu'on pense que justement les gens ils ont envie de venir.
Mais c'est 2022.
Ça sera 2022 où on va entièrement refaire une attraction.
Et ce sera quoi?
Quel type d'attraction?
Ça sera Tonnerre de Zeus qui va être entièrement revisité. Et puis,
une nouvelle attraction.
Alors, oui, on en a une autre qui est prévue pour 2023.
De la sensation, là encore?
Oui, ça sera de la sensation, je ne vous en dirai pas plus. Parce qu'il faut,
vous reviendrez pour nous
suspense.
En parler oui, en avant-première.
Avec plaisir.
Alors, Nicolas Crémer, chaque jour dans La France bouge, nous nous arrêtons sur une entreprise, une association, une marque qui a traversé les générations.
Oui, aujourd'hui, émission spéciale étudiant, nous revenons sur l'histoire du Centre d'information et de documentation jeunesse. Le CIDJ accueille gratuitement, anonymement et sans rendez-vous toutes les jeunes, quelle que soit leur situation. Et c'est notre étudiant, elle est plus loin de ça, Dora Nana, qui nous raconte son histoire.
Europe 1, la France bouge, la saga.
Depuis plus de 50 ans, le Centre d'information et de documentation jeunesse, CIDJ, accueille gratuitement, anonymement et sans rendez-vous tous les jeunes à la recherche de conseils pour leur orientation, leurs études, le premier emploi, l'alternance, un stage, l'accès aux droits ou encore la mobilité internationale. Un réseau associatif créé dans la foulée de mai 68, ça sera d'ailleurs le premier service public d'information des jeunes à une période où la société prend conscience de leurs besoins d'être écoutés et conseillés sur leur avenir. Une petite révolution à l'époque. Sophie Bossé-Montou, directrice générale du CIDJ.
La jeunesse prend conscience de son poids politique et afin de renouer le dialogue, un secrétaire d'État en charge de la jeunesse est créé. Et l'année suivante, naît le Centre d'information et de dialogue qui devient très très vite le CIDJ, le Centre d'information et de documentation pour la jeunesse. C'est une véritable nouveauté qui n'existait absolument pas à l'époque.
Et le CIDJ va trouver sa place et faire des petits en région. Une antenne va être rapidement créée à Marseille. Dans les années 70, 5 millions de jeunes vont être accueillis et avoir accès aux fameuses fiches métiers du CIDJ. Dans les années 80, il existe 25 centres d'accueil pour les jeunes, un modèle unique en Europe, et il est temps de passer à la vitesse supérieure. Ils vont alors jouer un rôle central dans la construction européenne en facilitant la mobilité des jeunes et en intensifiant les échanges.
En 86, c'est le CIDJ qui prend l'initiative en étant cofondateur de l'association ERICA, association qui fédère toutes les structures information jeunesse dans plus de 30 pays. Et l'année suivante, le fameux Erasmus, est lancé avec le soutien du CIDJ. Nous fédérons encore aujourd'hui plus de 140 professionnels sur l'ensemble des territoires qui vont accompagner plusieurs centaines de milliers de jeunes à partir étudier ou faire des stages à l'étranger.
S'adapter à une jeunesse qui s'ouvre sur le monde et à un monde qui change. Le Minitel va entrer au CIDJ, puis dans les années 2000, ça sera Internet et les réseaux sociaux. Autre révolution qui pousse encore aujourd'hui le CIDJ à repenser son rôle auprès des jeunes.
Jamais les jeunes n'ont eu autant d'informations à leur disposition et pourtant, ils n'ont jamais eu le sentiment d'être aussi peu informé. Aujourd'hui, notre défi au quotidien, c'est à la fois d'être présent de façon physique, mais aussi de répondre à cet enjeu d'information des jeunes où qu'ils soient, y compris d'ailleurs à l'international, puisqu'on a encore aujourd'hui 10% des jeunes qui fréquentent notre site web qui habitent l'étranger.
Une adaptation permanente face aux nouveaux besoins de la jeunesse. Chaque année, 90 000 jeunes poussent la porte du CIDJ et 2,5 millions consultent leur site chaque mois. Un CIDJ qui, depuis la crise sanitaire, accueille chaque jour une centaine de jeunes à la recherche d'un lieu pour travailler, d'une écoute bienveillante et qui permet de rompre avec l'isolement et d'éviter le décrochage scolaire. Un demi-siècle après sa création, il reste plus que jamais une boussole pour la jeunesse.
Et voilà, une boussole de plus dans cette France Bouge pour essayer de vous donner des idées, des solutions pour soutenir les jeunes. À émission spéciale Jeunes aujourd'hui de la France Bouge, c'était Dora Nana pour la saga du jour.
Et pour nous accompagner aujourd'hui dans la France Bouge, Nicolas Kremer, le directeur général du Parc Astérix. Tout de suite, nous allons vous demander de jouer les coachs de jeunes entrepreneurs.
Europe 1. Et il est 13h41 sur Europe 1.
L'heure des trophées Europe 1, la France bouge. Le pitch du jour, Vanguard.
Oui, ce sont des œuvres de street art reproduites en broderie sur un tableau. Vous dites, ça ressemble à quoi ce truc? Restez avec nous, comme ça vous saurez
tout.
Et allez
voir sur Internet.
La France bouge, émission spéciale, une fois de plus de soutien aux jeunes, aux étudiants. Comme chaque premier mercredi du mois, on essaye de vous apporter des solutions. Et notamment aujourd'hui, on parle job saisonnier avec Nicolas Kremer, qui est le directeur général du parc Astérix. Et on en vient à ce temps fort de l'émission, à notre moment du pitch, ces jeunes qui viennent porter leur projet d'entreprise. Alors Nathalie Carré, de la CCI, est déjà là, elle est déjà à l'écoute et elle viendra vous apporter ses conseils tout à l'heure. En plus, bien évidemment, des conseils de Nicolas Kremer, notre témoin du jour.
Bonjour Benjamin Beau.
Bonjour.
Bienvenue donc dans la France Bouge. Vous avez 25 ans, vous venez de Lyon. Vous
c'est
êtes
ça.
Le cofondateur de Vanguard, une start-up qui brode du street art sur tableau. Alors, vous aviez lancé une première entreprise sur textile en 2019. Et puis là, vous venez juste de prendre un tout nouveau virage. C'est ce que vous allez nous expliquer. Vous avez une minute. C'est à vous.
Alors, Vanguard est un atelier de broderie d'art situé à Lyon. On réalise des tableaux brodés en collaboration avec des artistes internationaux. On fonctionne sur le même principe qu'une maison d'édition. C'est-à-dire qu'on crée des œuvres. L'artiste nous envoie une œuvre exclusive qu'elle va nous soumettre. Et ensuite, nous allons réinterpréter son travail en remplaçant les aplats de couleurs par des aplats de fil. Le temps de broderie va durer entre 3 heures et 8 heures en fonction de la complexité de l'œuvre. Et faut savoir que chaque œuvre est brodée en édition limitée. Elle est signée et numérotée de la main de l'artiste. Elle est également certifiée par la technologie NFT qui garantit son authenticité ainsi que sa traçabilité. Toute la fabrication est made in France. Aujourd'hui, Vanguard a vendu près de 50 œuvres en un mois d'existence. Les prochaines étapes sont le développement à l'international, notamment sur le marché américain et sur le marché au Royaume-Uni. Et également l'achat d'une machine plus grande pour faire de l'œuvre unique, parce qu'aujourd'hui, on réalise seulement des éditions limitées. Vous pouvez retrouver nos œuvres sur vanguard.fr. V-A-N-G-A-R-T.
Voilà, je voulais quand même vous laisser terminer. En tout cas, bravo pour ce pitch, Benjamin. Comme tous les autres, vous oubliez de nous dire combien ça coûte, parce que c'est quand même la question que tout le monde se pose. Mais comme dirait Nathalie Carré, c'est mon job. Une moyenne de 400 euros, m'a-t-on dit, c'est ça?
C'est ça, on est entre 300 et 600 euros pour le moment. Ça dépend en fait de la cote de l'artiste.
Alors Benjamin, comme chaque jour, Nathalie Carré, en effet notre partenaire de CCI France, scrute de très près votre projet pour identifier ses forces et ses faiblesses. Bonjour Nathalie.
Bonjour Carole, bonjour Benjamin, bonjour Emmanuel.
Bonjour, j'ai fait mon job hein, Nathalie. Hein.
Oui, parfait, parfait Emmanuel.
Alors qu'est-ce que vous avez pensé du pitch de Benjamin, Nathalie ?
Alors les points positifs, déjà l'angle street art, on le sait peut-être pas forcément, mais c'est un art de plus en plus apprécié par les Français, qu'ils soient d'ailleurs amateurs d'art ou non. Deuxièmement, l'accessibilité proposée aux œuvres, les prix restent donc raisonnables, il est possible de payer en plusieurs fois et de tester chez soi pendant 2 semaines l'œuvre qu'on achète. Et le côté édition illimitée, alors c'est marrant parce que vous venez de dire que c'était une contrainte en fait, mais ça devient une vraie force en fait de proposer des éditions limitées puisque vous proposez entre 10 et 30 pièces produites et ça fait un petit côté un peu VIP. En point amélioré, peut-être plus d'informations sur les artistes sélectionnés pour les amateurs de street art. Quelle est leur histoire? Quelles sont leurs œuvres? Où est-ce qu'on peut les voir éventuellement? Et puis pour le moment, une suggestion, vous avez choisi le street art, mais vous avez toute l'infrastructure technique pour broder, nos photos ou d'autres œuvres. Peut-être pourriez-vous étendre votre activité à la broderie sur mesure pour augmenter votre clientèle.
Merci Nathalie. Benjamin, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, en effet, c'est très pertinent. Après, nous, notre but, c'est vraiment de collaborer avec des artistes du monde entier. Donc, c'est vrai qu'on ne se limite pas forcément au street art. On a un artiste actuellement sur la plateforme qui vient de l'art contemporain. Et aujourd'hui, on veut s'ouvrir à tous les univers artistiques et continuer à nous développer.
Vous disiez que tout était made in France, mais en tout cas, quand on a préparé cette interview avec notre équipe, vous l'avez dit à notre équipe que les tissus venaient des Pays-Bas. Pourquoi
oui,
donc
on a testé plein de types de tissus et on s'est retrouvé avec un fournisseur aux Pays-Bas. Donc en effet, le tissu vient des Pays-Bas, mais ensuite la broderie est réalisée à Lyon, le montage sur ce châssis est réalisé à Lyon et l'encadrement également. Et les casses américaines viennent de Franche-Comté.
Nathalie le disait, le street art, ça devient vraiment, c'est en plein boom, c'est vraiment le cas, ça devient un art à part entière dans le milieu artistique.
On va dire que les street artistes arrivent à bien développer leur art sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, ils ont des grosses communautés. Donc oui, en effet, c'est un courant qui est en train d'exploser. Après, nous, on s'ouvre vraiment à tout type d'art et pas seulement... Le street art.
Nicolas Crémer, je rappelle que vous êtes le directeur général du Parc Astérix, vous êtes notre grand témoin depuis le début de cette émission. Avec votre œil là d'entrepreneur, de chef d'entreprise, vous en pensez quoi de ce projet entrepreneurial?
Moi, je trouve que c'est une très bonne idée d'allier en fait une technique très traditionnelle qui est la broderie et de l'associer à quelque chose de très contemporain qui est le street art.
Donc, je trouve que l'idée il y a du street art au Parc Astérix? Vous avez des espaces
au Parc Astérix? Non, mais il pourrait y en avoir. Ceci dit, c'est pas trop dans l'univers gaulois.
Vous dites que vous êtes des brodeurs d'art, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais.
Alors, vous avez besoin de quoi, du coup, Benjamin? Vous nous avez dit des sous pour une nouvelle machine, mais je crois que vous espérez aussi un prêt d'honneur de la BPI?
C'est ça, en effet. On a commencé les démarches pour avoir un prêt d'honneur et pour pouvoir se développer à l'international. Et acheter surtout une machine pour pouvoir faire de l'œuvre unique. C'est ce qui nous intéresse parce qu'aujourd'hui, on est limité par les formats. C'est pour ça que c'est des éditions limitées. Les formats, c'est des formats A3, donc du 30x40 ou un format carré, 40x40.
Merci beaucoup, Benjamin Beau. On peut donc trouver vos œuvres, vous l'avez dit, sur le site de Vanguard, V-A-N-G-A-R-T.
Et Nathalie Carré, on vous retrouve demain si vous avez envie de venir présenter votre projet. Une seule adresse mail, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Nicolas Crémer, vous êtes le directeur général du Parc Astérix. Nous arrivons à la dernière partie de cette émission.
Europe 1. Et vous êtes au bon endroit, vous êtes sur Europe 1, 13h49.
Dans un instant, restez à l'écoute si vous êtes à la recherche de travail.
Oui, on a 200 postes pour vous. Où ? Ma réponse, allez, il ne reste plus que quelques minutes. Restez là. Elle bouge et elle crée de l'emploi. On essaye de vous le montrer hein, chaque mercredi, chaque vendredi, notamment dans cette séquence « Demain, un emploi ». Et on en parle notamment aujourd'hui avec le directeur général du Parc Astérix, Nicolas Crémer.
Et avec Thierry Bièvre, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le patron du groupe Elitis. Vous avez deux métiers. D'un côté, l'ingénierie en bâtiment. De l'autre, l'immobilier. Et vous allez recruter 200 personnes sur 3 ans. Pour quel type de métier ?
Alors, nous sommes les spécialistes des bâtiments à énergie positive. Donc, c'est des bâtiments qui produisent autant d'énergie qu'ils n'en consomment. Et à coût standard de construction, on réalise même des bâtiments zéro facture d'énergie. Alors, donc, pour la France, nous cherchons des projets, des directeurs, des conducteurs de travaux qui souhaitent accompagner ce projet de bâtiments neufs ou rénovés avec des performances environnementales hors normes, voilà, qui dépassent les meilleurs labels, les réglementations. et ce, depuis la naissance du projet jusqu'à leur parfait fonctionnement.
On ne vous entend pas très bien, monsieur Bièvre, la liaison n'est pas très bonne.
Elle n'est pas très bonne, mais on va essayer quand même de poursuivre. Restez bien en place, ne bougez pas trop, ça devrait fonctionner, parce que c'est important quand même, toutes ces offres d'emploi. Là, on l'entend, vous êtes sur un métier très professionnel, un métier même technique. Vous cherchez des gens qui ont une formation très technique ou c'est ouvert à tout le monde, ces offres d'emploi ?
Alors c'est ouvert à des ingénieurs, des techniciens, mais également à d'autres profils, des talents, hein, notamment dans le cadre de la recherche et développement où on recrute des explorateurs, des talents vers une innovation pragmatique en lien avec la réduction du bilan carbone dans le domaine des matériaux, des process de construction, y compris des disciplines sociales. Également du numérique. Donc, vous voyez, c'est assez éclectique puisque l'économie d'énergie, en fin de compte, elle se cache partout. Et donc, il faut trouver, on va dire, des collaborateurs, des ingénieurs, des techniciens qui soient, on va dire, intéressés à essayer de coopérer de manière très transdisciplinaire et trouver des solutions efficaces. Et donc là, aujourd'hui, on recherche dans ces métiers une centaine de collaborateurs en France et à peu près une centaine également à l'étranger.
J'allais vous demander, parce que vous êtes basé à Dijon, je crois, vous recherchez là-bas, mais aussi dans d'autres villes. Vous recherchez où ? Quelques villes comme ça ?
Alors, en fin de compte, on cherche à rapprocher nos prescriptions des besoins et donc de s'implanter dans toutes les métropoles d'équilibre de plus de 150 000 habitants. Donc, vous voyez, il y a à peu près une cinquantaine de villes en France, en créant des équipes très proches, en fin de compte, des besoins des collectivités et de nos clients, promoteurs, industriels. Et donc, on cherche à peu près 4 ou 5 personnes par ville. Donc, vous voyez, donc déjà, si on prenait simplement ces 50 villes avec 4 collaborateurs, on a déjà 200 emplois en fin de compte devant nous. Donc, aujourd'hui, voilà, on a un véritable besoin, on va dire, de prolonger notre savoir-faire sur des bâtiments très performants dans toutes ces villes.
Et pour ceux qui sont intéressés, hein, il faut aller sur votre site internet www.elitis, ça s'écrit ELITHIS.fr.
Merci Thierry Bièvre, désolé hein, pour cette mauvaise liaison. Vous êtes donc le patron d'Elitis. Je pense qu'on a compris le principe et effectivement, le mieux, c'est d'aller voir sur le site tout ce que vous faites et les postes que vous recherchez. 200 personnes d'ici 3 ans ELITHIS.fr.
Nicolas Crémer, vous êtes donc le directeur général du Parc Astérix. On a beaucoup parlé depuis le début de cette émission des 1000 personnes que vous allez recruter. Vous nous disiez tout à l'heure 150 à 200 personnes. Mais il y a des gens qui travaillent le reste de l'année au Parc Astérix. C'est quoi le nombre de salariés habituels du Parc Astérix ?
Alors, au Parc Astérix, nous sommes ce qu'on appelle 1000 équivalents temps plein sur l'année et dont 300 en fait permanents, CDI. Surtout dans les fonctions en fait support, développement, finance, relations humaines et sociales, marketing et vente.
Est-ce qu'on peut faire carrière au Parc Astérix ? Vous commencez, vous arrivez, vous proposez comme ça dans un petit job saisonnier.
Oui,
et puis
on peut faire carrière au Parc Astérix, absolument, puisqu'il y a des gens qui sont là depuis l'ouverture du parc. Je rappelle qu'on a fêté nos 30 ans il y a 2 ans, donc le parc a 32 ans. Il y a des gens qui sont là depuis l'ouverture, et même légèrement avant l'ouverture. Donc oui, on peut faire carrière au Parc Astérix. Ceci dit, tous les ans, on a beaucoup de gens qui viennent travailler, ne serait-ce que les saisonniers, qui sont souvent les étudiants, qui passent 1-2 saisons avec nous et qui passent après à autre chose. On a aussi des alternants. On travaille aussi avec Pôle emploi pour proposer des formations à des jeunes pour apprendre des métiers. Ces jeunes-là restent, sur certains d'entre eux, 1 an, 2 ans, 3 ans avec nous, mais souvent vont voler après de leurs propres ailes dans d'autres entreprises.
Là aussi, on postule sur votre site. On va sur le site
du Parc Astérix.
Merci beaucoup à vous, Nicolas Crémer. Vous êtes le directeur général du Parc Astérix. Un grand merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission spéciale.
Merci. Et nous vous retrouvons demain. On parlera grand air, Emmanuel, on va dire ça comme ça.
Bah oui, parce qu'avec le télétravail, et puis là encore, peut-être que certains sont en train de se dire, allez, on va quand même réserver des vacances pour cet été. On va faire un état des lieux. On sera avec le patron de Bellambra demain.
Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.
C'était La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.